Chers étudiants, chers collègues, Madame le Proviseur, je suis très heureux de venir ici pour répondre à ce qui a été, je crois, une demande des élèves et de l'équipe enseignante de ce lycée. C'est le principe de l'université pour tous les savoirs. Alors, on m'a demandé de venir parler de la théorie de l'évolution et du créationnisme, titre imposé. Sur un tel thème, un thème chaud, je dirais qu'il est toujours honnête de dire d'où on parle. Comme on l'a dit, je suis un philosophe des sciences, dont la moitié de la formation est en philosophie, dont l'autre est en biologie. Lorsque j'ai fait mes études de biologie jusqu'à la maîtrise, comme on l'a dit, je n'ai jamais entendu parler de l'évolution à l'université, du moins pas directement. Et puis, lors d'un DEA, portant sur ce sujet, j'ai découvert un domaine fascinant qui est devenu, avec la génétique, l'objet principal de tous mes travaux ultérieurs, soit de biologiste, soit de philosophe des sciences. Ce que je dois vous dire, c'est que quand j'ai été initié dans un des rares endroits en France à l'époque où on l'enseignait à la théorie de l'évolution contemporaine, pas une seconde pendant cette formation, je ne me suis posé la question du rapport de ce domaine à l'évolution. C'était tout simplement scientifiquement fascinant. Et puis on est rattrapé par son propre passé, le passé de la société où on vit. Et vous voyez, quelques 30 années plus tard, eh bien, on vient me chercher comme, au fond, un commis d'office pour parler de ce thème que, je dois l'avouer, j'ai soigneusement évité, sauf dans deux ou trois articles, dans mes productions universitaires. Alors, après ce préambule, donc je rentre dans le sujet. Je vais vous dire des choses qui ne sont pas bien compliquées, mais que je tiens à faire passer. Premier point, évolution et religion. Alors, je voudrais tout de suite insister sur le paysage complexe de ces relations. Et ces relations, elles présentent en quelque sorte deux pôles, deux choses, deux aspects qui semblent a priori contradictoires. Je vous donne ce constat brut, un certain nombre de faits qui relèvent tout simplement de l'histoire. Alors, d'une part, ce thème nous évoque quelque chose qui a l'allure d'un conflit entre science et religion. Je signale tout de suite d'ailleurs que dans l'histoire de la science moderne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la science moderne, c'est-à-dire au fond tout ce qui s'est passé depuis la révolution scientifique, fin du XVIe et XVIIe siècle, bien, les historiens s'accordent à dire qu'il n'y a eu que deux exemples majeurs de conflits entre la science et la religion. Il y a eu beaucoup d'interactions en permanence depuis quatre siècles et il y en a encore beaucoup, quelquefois positifs, quelquefois négatifs, mais c'est normal. La religion couvre quasiment tous les aspects de la vie sociale et la science, à mesure qu'on a avancé dans le temps, a aussi couvert de plus en plus d'aspects. Mais un conflit massif, capable de durer, maintenant ça fait deux siècles pour l'évolution, eh bien, ça s'est produit deux fois. Il y a eu l'évolution, comme je viens de le dire, et puis aussi le conflit qui s'est construit au XVIe, XVIIe siècle autour de la théorie héliocentrique, autrement dit, autour de Galilée, pour nommer un nom. Alors, depuis le début du XIXe siècle, le conflit entre évolution et religion a divisé toutes sortes de groupes sociaux. Il a divisé d'abord les scientifiques. Depuis Lamarck, donc les années 1800 environ, on a vu des paléontologues, des géologues, puis des biologistes se diviser sur cette question. Ce conflit a bien entendu divisé la société. Il est rare que la science concerne autant que la société, mais en ce qui concerne l'évolution, c'est clair, ça concerne tout un chacun. Et là aussi, on a vu des clans s'opposer et l'évolution être mobilisée au service de toutes sortes d'objectifs idéologiques, culturels et politiques. Et bien, enfin, ce conflit a aussi divisé le monde religieux. Alors, essentiellement, donc, les églises chrétiennes entre elles et parmi elles. J'insisterai d'ailleurs beaucoup sur cet aspect, car il me semble que c'est l'aspect le plus important, mais j'y reviendrai dans ma conclusion après avoir administré, si vous voulez, ma démonstration. Je voudrais insister, après donc avoir présenté des choses comme conflit, comme un conflit, que cette expression, en fait, n'est pas très bien choisie. D'abord, d'un point de vue social, la science, ça n'existe pas. La religion, ça n'existe pas. Les mots science et religion regroupent des phénomènes, chacun, extrêmement complexes dans son domaine propre. Et en réalité, il vaut mieux parler d'une controverse sociale de grande ampleur qui a traversé cette chose très complexe qu'on appelle la science, cette chose très complexe qu'on appelle la religion, et ceci dans une zone chevauchante. Alors, ceci, c'est le premier aspect, donc l'apparence d'un conflit. Mais on peut voir les choses autrement et puis extraire d'autres faits de l'histoire qui présentent un panorama tout à fait différent. Le personnage que vous voyez sur cette image, sur cette photographie, est Charles Darwin. Charles Darwin, mort en 1882. Charles Darwin, qui tout au long de sa vie, et bien sûr, a consacré une grande partie de son œuvre, et l'œuvre principale, à la théorie de l'évolution par sélection naturelle, et qui aussi, d'un point de vue religieux, a évolué d'un sentiment religieux incontestable. Il se destinait, ou plus exactement, son père le destinait à la profession de pasteur. Et puis, en cours de vie, lorsqu'il a publié « L'origine des espèces », son grand livre, il était devenu en quelque sorte sceptique, mais pas anti-religieux. Et à la fin de sa vie, lorsqu'il est mort, il l'a déclaré d'ailleurs que de manière intime, il ne l'a jamais écrit, du moins publiquement, il était ostensiblement athée. Alors la photo que vous voyez là est celle d'une immense statue qui se trouve à l'entrée de Westminster Abbey à Londres. Darwin, en 1982, a été enterré au cours d'une cérémonie religieuse solennelle dans le haut lieu de l'église anglicane. Et lors du sermon qui lui a rendu hommage, on lui a rendu hommage comme un très grand chrétien. A Christian gentleman. Bon, c'est assez curieux, mais c'est ainsi. Donc, deuxième manière de présenter les choses par opposition à l'image d'un conflit, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'indices historiques du contraire. C'est-à-dire que le rapport entre évolution et religion, eh bien, n'aurait pas été un rapport de l'objet d'un conflit majeur, mais de quelque chose de différent, quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte de coexistence pacifique. Je viens d'évoquer l'enterrement solennel de Darwin à Westminster Abbey. Je voudrais mentionner un autre fait dont vous pouvez avoir entendu parler. C'est qu'à la suite de Darwin, s'est édifié un secteur de science consacré à l'évolution. Ça a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Il a fallu arriver aux années 1950 pour que ce secteur soit professionnalisé, institutionnalisé. Cette professionnalisation s'est faite essentiellement dans les années 1930 à 1960. Et lorsque l'on regarde du côté des très grands théoriciens de l'évolution, des biologistes durs, si vous voulez, qui ont construit ce qu'on a appelé la synthèse moderne, c'est-à-dire le néo-darwinisme ou encore cette synthèse de théorie de la sélection naturelle et de génétique, eh bien, on s'aperçoit que le paysage des croyances religieuses parmi ces grands ténors est extrêmement varié. Vous trouvez des athées ouverts qui l'ont déclaré. Vous trouvez par exemple celui qui a construit la synthèse moderne dans le domaine de la botanique, l'Américain Stebbins, ou le biologiste anglais Waddington, qui ont déclaré haut et fort leur matérialisme et leur athéisme. Donc vous trouvez des athées militants. Vous trouvez des agnostiques, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas se prononcer sur la question religieuse et qui estiment qu'ils ne, au fond, ils ne croient pas en Dieu, mais ils ne veulent pas en parler. Attitude, dans l'ensemble, plutôt sceptique. Alors ça c'est l'attitude de la majorité des évolutionnistes d'hier et d'aujourd'hui. Puis vous trouvez un certain nombre de scientifiques, et parmi les plus grands, qui ont clamé haut et fort la compatibilité de leurs travaux évolutionnistes avec des engagements, pas simplement des croyances, des engagements religieux. J'en donne quelques exemples, ce sont des noms que vous ne connaissez peut-être pas, mais si vous étiez biologiste et intéressé à l'évolution, vous reconnaîtriez certains des plus grands. Théodosius Dobzhansky, russe, émigré aux États-Unis, et qui a été le personnage le plus fécond en matière de génétique des populations, donc association de la génétique avec les méthodes de la biométrie et celle et avec le concept de sélection naturelle. N'a jamais abandonné sa foi orthodoxe, il y a accordé une importance de plus en plus grande à mesure qu'il a vieilli, il est devenu un ami personnel de Teilhard de Chardin, il a été trésorier de la fondation new-yorkaise des Amis de Teilhard de Chardin, et il a écrit un livre entier consacré à dire qu'au fond, au-delà de la théorie de l'évolution, il y avait place pour une réflexion métaphysique et théologique sur l'évolution qui lui était absolument essentielle. Bon. Ronald Fisher, un Anglais, connu pour son extrémisme dans sa présentation génétique de la théorie de la sélection naturelle, était anglican, il avait coutume de prêcher le dimanche, et il voyait dans la théorie de la sélection naturelle, eh bien, l'exemple le plus flagrant de ce que les théologiens du Moyen-Âge appelaient la création continuée, par opposition à la création originelle. Donc l'idée que Dieu, par le biais des lois de la nature, continue à déployer sa création dans le monde des formes vivantes. Je pourrais poursuivre les exemples, ils sont très nombreux, mais tout ceci pour dire que dans les faits, il n'est pas possible de dire que les évolutionnistes de métier auraient été plutôt matérialistes et athées, ou plutôt catholiques, ou plutôt anglicans, ou plutôt autre chose. Dernier indice d'une sorte de ce que j'ai appelé tout à l'heure coexistence pacifique. L'attitude de l'Église catholique elle-même. Cette attitude est intéressante car elle a évolué dans le temps. À la différence des églises protestantes qui, dans leur majorité, ont été partagées à la fin du XIXe siècle, l'Église catholique a montré au départ une hostilité accentuée à l'égard de l'évolution, qui a été condamnée de manière répétée à la fin du XIXe siècle. Et pourtant, nous constatons qu'en 1950, le pape Paul VI, dans une encyclique, c'est donc pas rien, une encyclique sur le genre humain, eh bien, déclare solennellement qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi chrétienne et ce qu'il appelle la doctrine de l'évolution. La même chose est répétée de manière plus forte par Jean-Paul II en 1996 devant l'Académie pontificale, où il explique que la théorie de l'évolution des espèces est hautement vraisemblable d'un point de vue scientifique, y compris pour expliquer l'origine de l'homme, mais que simplement ce que l'Église, par sa voix, récuse, c'est l'idée qu'il n'y aurait pas quelque chose de spécifique à l'homme, et Jean-Paul II dit, en ce qui concerne la création des âmes, ça revient à Dieu. Vous voyez, c'est une concession, mais ça indique que, au fond, même quand on regarde du côté des églises protestantes et catholiques, l'idée d'un conflit n'est pas si claire que cela. Après ce... Donc, pour conclure ce préambule, Je voudrais dire que les rapports de l'évolution et de la religion bien constituent un objet historiquement complexe. Ce n'est pas simple. Il n'est pas vrai qu'il y ait eu un conflit ouvert, absolu entre ces deux mondes. Ces deux mondes, d'ailleurs, sont des mondes eux-mêmes complexes qui se chevauchent beaucoup. L'évolution a été l'objet de, en fait, de plusieurs régimes de relations entre science et religion, terme qu'il faudrait d'ailleurs presque toujours, lorsqu'on envisage les choses de manière historique, mettre au pluriel. Alors, je vais justement emprunter pour quelque temps l'habit de l'historien des sciences. Les historiens des sciences contemporains s'intéressent beaucoup au rapport entre science et religion, et ils nous apprennent à cet égard beaucoup, puisqu'ils nous apprennent à nous défaire de visions un peu stéréotypiques et à prendre nos distances. On peut dire qu'il y a trois conceptions classiques du rapport entre science et religion. Ce sont trois conceptions qui remontent au XVIIIe siècle. Chacune est assez dogmatique. Elles ont souvent été présentées dans le passé comme des conceptions exclusives, soit ceci, soit cela, et sur arrière-fond d'un militantisme, je dirais, lequel un petit peu plus tard. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que ces conceptions sont bonnes, mais en tant que conceptions partielles. La première conception, peut s'appeler le modèle du conflit. Alors, je vous indique quels sont les slogans de cette position qui a été répétée d'innombrables fois depuis le XVIIIe siècle. Le modèle du conflit postule que la mentalité scientifique et la mentalité religieuse sont incompatibles. Elles sont par nature en opposition. Alors on dira ça de mille manières, on dira le domaine de la science c'est celui des faits testables, le domaine de la religion c'est celui de la foi, le domaine de la science c'est celui d'une rectification et d'un progrès indéfini, le domaine de la religion c'est des vérités éternelles, la pratique scientifique implique discussion critique, tandis que la pratique religieuse s'appuie, au moins dans les grandes religions monothéistes, sur une révélation. Et on peut continuer ainsi. Une autre idée de cette conception du rapport science-religion comme conflit, c'est que les querelles science-religion sont des querelles de territoire, donc des intérêts et des groupes sociaux qui sont concurrence pour occuper un certain espace social, des ressources idéologiques, des ressources matérielles. Et on conclut que ce genre de conflit, lorsqu'il apparaît dans l'histoire, se termine toujours au désavantage de la religion et à l'avantage de la science. Je vous donne un exemple anodin, parce que ça ne marche justement que dans des cas anodins. Ça ne marche pas sur des cas comme la théorie héliocentrique ou comme l'évolution. Bien, par exemple, au milieu du XVIIIe siècle, Benjamin Franklin a proposé une explication électrique ou par l'électricité de la foudre. Décharge d'électricité, au fond, des nuages vers le sol. Et en conséquence, il a proposé un remède contre la destruction des bâtiments par la foudre, qui était de mettre un paratonnerre, un morceau de fer, en haut des bâtiments, un fil jusqu'au sol pour acheminer l'électricité vers le sol. En 1761, la basilique de Venise a brûlé suite à un coup de foudre. Discussion à Venise entre justement un certain nombre de représentants ecclésiastiques. Monsieur Franklin nous propose une solution. Allons-nous l'adopter, oui ou non? Réponse, non. Le tonnerre, la foudre, c'est l'expression de la colère de Dieu. Ce serait offenser Dieu que de mettre un paratonnerre. Un an plus tard, de nouveau, la basilique est touchée par la foudre. Bon, nouvelle discussion. En 1766, on met un paratonnerre. Évidemment, depuis, la foudre n'a pas fait brûler le dôme de Venise. Alors, ce genre d'exemple est souvent sollicité par les gens qui défendent ce modèle du conflit. Vous voyez, cet exemple, il est simple, il est quelquefois un peu plus compliqué, mais ça se passe toujours comme ça. Lorsque la religion s'aventure sur le domaine de la connaissance scientifique, elle perd toujours. Deuxième modèle. Le deuxième modèle, c'est le modèle de la séparation. Le modèle de la séparation consiste à dire que science et religion répondent à des besoins humains différents. D'un côté la connaissance, de l'autre côté le salut, d'un côté le culte, d'un côté la recherche empirique, de l'autre côté des choses comme le culte, la conscience personnelle, les valeurs, etc., etc. Donc ce sont des zones existentielles différentes qui peuvent éventuellement entrer quelquefois en confrontation, mais fondamentalement ce sont des affaires différentes et par conséquent le sort naturel de ces deux phénomènes sociaux, c'est au fond d'aller chacun de leur côté et de fonctionner de manière réciproquement neutre. Donc un régime normal, le régime normal, selon cette thèse, de relation entre science et religion, hein, c'est celui de la neutralité réciproque, celui que le grand savant américain et évolutionniste, en l'occurrence Stephen Jay Gould, a appelé le principe du noma, non-overlapping of magisteries, non-empiètement des magistères. Chacun dans son côté fait son travail, ça satisfait parfaitement la majorité des scientifiques et la majorité des hommes de religion. Cette conception modèle de la séparation, il faut le dire, c'est le modèle qui est majoritairement et systématiquement adopté par les scientifiques eux-mêmes en pratique. Et puis un troisième modèle. Troisième modèle, il est appelé le modèle de l'interaction positive, ou dans des termes plus forts quelquefois, harmonie ou intégration. Et là, l'idée, c'est que dans d'innombrables périodes de l'histoire, la science et la religion ont collaboré de manière positive, en aboutissant très souvent à des résultats inattendus, mais très souvent en particulier à des résultats positifs en matière de recherche scientifique, puisque ça aiguise l'imagination, et aussi en un renouvellement de la religion et en particulier de la théologie. Alors on va faire valoir par exemple que la science médiévale ne connaît pas la séparation ou l'opposition entre science et religion. Alors on se dira, ben c'est à peu près normal, parce qu'au Moyen-Âge, toute la science, elle se fait dans un contexte clérical. Mais les mêmes vous diront, regardez les 16e, 17e, 18e siècles, toute la science qui se fait, de Descartes à Newton, Malebranche et bien d'autres, se fait dans un contexte hautement théologisé. Elle proclame la beauté et la rationalité de la création divine, et de fait, c'est vrai, dans cette époque, la théologie imprègne de part en part un discours explicite des hommes de science, et ceci n'est certainement pas une affaire de simple conformisme. C'est très, la plupart du temps, assez profondément sincère. Au XIXe et XXe siècle, qui sont des siècles plus laïques, on trouve aussi des signes positifs, des signes clairs de cette interaction positive. Par exemple, dans les domaines de la paléontologie et de la préhistoire, puisque nous parlons aujourd'hui d'évolution, on constate qu'un nombre considérable de savants dans ces domaines, eh bien, ont associé étroitement, peut-être pas dans la méthode, mais du point de vue des convictions, l'engagement religieux et l'engagement scientifique, et le plus souvent pour le meilleur. Songez par exemple que dans un pays comme le nôtre, dans l'entre-deux-guerres, qui a occupé la première chaire de préhistoire au Collège de France? L'abbé Breuil. Qui s'est vu offert la première chaire de paléontologie humaine? C'était Pierre Teilhard de Chardin, qui a été néanmoins contraint de la refuser, car son ordre, l'ordre des jésuites, lui a interdit de le faire sur commande spéciale de la papauté. Alors, ces trois modèles, donc, conflit, séparation, interaction positive, sont chacun faux si on les prend comme des généralisations. mais ils illustrent chacun trois manières courantes dont interagissent la science et la religion. Ces trois modèles ne sont pas idéologiquement neutres. Bien entendu, ça peut être des outils de travail pour l'historien des sciences, mais sur le terrain, c'est-à-dire chez les scientifiques ou chez les hommes de religion, les hommes et les femmes de religion, il est souvent revendiqué de manière assez militante. Autrement dit, il a une fonction idéologique qui est assez rapidement repérable. Le premier modèle, le modèle du conflit, on le trouve presque toujours chez des mangeurs de curés, chez des gens qui vont se dire matérialistes, athées, convaincus que la science c'est le progrès et que la religion c'est au fond l'archaïsme et le passé. Le modèle de l'harmonie, la coexistence, l'intégration, l'interaction positive, vous le trouvez presque toujours dans le domaine religieux ou chez des savants qui y voient, au fond, un argument apologétique, c'est-à-dire une manière de faire rayonner une conception féconde et positive de la religion. Et puis le second modèle, le modèle de la séparation, dont je vous ai dit que c'était le modèle dominant des scientifiques, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est que depuis 4 siècles que la science, au fond, a conquis son autonomie sociale, c'est celui qui convient aux scientifiques qui veulent travailler tranquillement dans leur coin, et puis laisser la religion à des affaires d'engagement privé et personnel. Limite de ces trois modèles. Alors, je me répète, mais c'est que aucun n'épuise les relations réelles entre science et religion. Chacun exprime certains aspects. Notez aussi que beaucoup des rapports allégués entre science et religion dans ces modèles sont en fait des rapports entre des factions rivales. Très souvent, ce sont des factions scientifiques entre elles. Quelquefois aussi, ce sont des factions religieuses entre elles. Et quelquefois, enfin, il s'agit de débats sociaux plus large. Donc, vous voyez le caractère de simplification de ces modèles. Troisième point. Le titre de mon exposé contient « Théorie de l'évolution ». Je vais donc en dire un minimum, bien que mon penchant propre me porte à peut-être parler plus de cela que du reste. Mais je vais justement être très limité là-dessus. Bon, la théorie de l'évolution, laissons de côté le mot qui est tardif, c'est fin du 19e siècle. Elle est aujourd'hui en grande partie identifiée à l'œuvre d'un grand savant, Darwin, bien qu'en fait les choses remontent aux alentours des années 1800 avec des savants comme Lamarck. Bon, concentrons-nous sur Darwin, la théorie de Darwin. Alors, comme je viens de le dire, théorie de l'évolution biologique, ça n'existait pas dans les années 1850-1860 lorsque Darwin a écrit son livre, L'origine des espèces. La manière dont Darwin appelait sa théorie est assez compliquée, il y tenait beaucoup. Il disait « théorie de la descendance avec modification par la sélection naturelle ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Descendance commune, les espèces descendent les unes des autres. Avec modification, les espèces changent. Et puis par sélection naturelle, c'est le facteur causal invoqué pour expliquer, justement, la modification des espèces. Nous voyons donc, et Darwin en était très conscient, comme ses successeurs d'ailleurs, qu'il y a deux grands aspects dans ce que l'on appelle la théorie de l'évolution. D'ailleurs, très curieux, on dit toujours aujourd'hui la théorie de l'évolution, alors que la discipline, elle s'appelle biologie de l'évolution. On continue à dire théorie parce que le mot théorie est effectivement important. Alors, il y a donc deux aspects. Il y a un aspect qui est une sorte d'hypothèse générale sur l'allure de l'histoire de la vie. Et en fait, c'est une série de de thèse ou de généralisation consistant à dire que les espèces dérivent physiquement les unes des autres, qu'elles changent, donc elles se modifient, qu'elles divergent au cours du temps, et que la plupart d'entre elles sont des impasses évolutives à un certain moment et qu'elles s'éteignent. Et bien souvent, les évolutionnistes, ils ont commencé à utiliser cette formule après Darwin, on dit, bon ben ça c'est le fait général de l'évolution. Hein? Darwin préférait dire que la descendance avec modification, c'était déjà une hypothèse théorique. Le deuxième aspect de la théorie de Darwin, eh bien c'est une hypothèse explicative, ou plus exactement un ensemble d'hypothèses, qui permettent de rendre compte des faits que sont, selon Darwin, la modification, la divergence, l'extinction et un certain nombre d'autres choses. Sans aller dans le détail, ce qui était clair pour Darwin, c'est que parmi ces facteurs explicatifs, il y en avait un qui canalisait l'évolution plus que tout autre et qui était la sélection naturelle. Pour illustrer la première partie de la théorie de Darwin, et vous verrez que c'est très important pour comprendre ce dont il s'agit dans le créationnisme. Voici un dessin qui a été publié par Darwin dans L'Origine des espèces, 1859. C'est la seule figure. Il n'y en a pas d'autre dans le livre. C'est une figure extrêmement théorique qui est accompagnée de plus de 20 pages de commentaires dans le texte. Que représente cette formule ? On ne va pas la commenter dans le détail, mais si vous regardez le schéma, les lignes horizontales représentent un certain nombre de générations. Darwin nous dit par exemple, entre ici et là, mettons vous pourriez avoir 1000 ou 10 000 générations. Peu importe le nombre, c'est purement théorique. Donc entre ici et là, vous allez avoir, par exemple, 140 000 générations. Et Darwin nous dit, prenons par exemple un ensemble d'espèces apparentées, alors apparentées du point de vue de leur caractère morphologique et comportementaux, dans une certaine région du monde, de grand A à L. Prenons par exemple petit b. Ah, petit b, s'éteint au bout de pas longtemps. Petit f ne change pas beaucoup, et puis perce jusqu'à notre époque, sans faire de petit. Et prenons grand A. Ah, alors grand A, va donner des petites variétés locales qui vont se cliver, qui vont en donner d'autres, etc., etc. Et 140 000 générations après, nous avons par exemple 8 groupes différents, et Darwin nous dit ils sont maintenant tellement séparés et probablement interstériles qu'il est légitime de parler d'espèces. Une espèce a donné 8 espèces. Alors Darwin nous dit évidemment c'est un schéma théorique. C'est une manière dont, dit-il, je vous propose de travailler pour chercher des faits pertinents relativement à l'histoire de la vie. Descendance, modification, extinction et divergence, c'est-à-dire que dans le temps, non seulement les groupes se séparent, mais leur caractère s'éloigne. Alors j'insiste là-dessus parce que vous voyez, souvent on appelle ça le fait général de l'évolution. Ce n'est pas un fait, c'est une hypothèse heuristique, c'est-à-dire une hypothèse qu'on adopte parce qu'elle suggère des recherches empiriques fécondes. Mais c'est de la théorie, déjà. Vous verrez que c'est un très grand enjeu dans le débat sur le créationnisme. Ça, c'est la première partie de la théorie de Darwin. L'autre, c'est tout ce qui concerne la variation et la sélection naturelle, plus quelques autres facteurs, que Darwin utilise pour expliquer le changement, l'extinction, la divergence et un certain nombre d'autres faits. Alors, ceci m'amène tout de suite à souligner quelque chose de très important pour la suite. Dans ce que l'on appelle couramment aujourd'hui le créationnisme, quelle est la cible de la critique des créationnistes ? Ça n'est pas la seconde partie de la théorie de Darwin. Ça n'est pas la sélection naturelle. La première cible, c'est ce que Darwin appelait descendance avec modification et que ses successeurs ont appelé le fait général de l'évolution. Et la critique consiste à dire ce schéma est une fiction, ce schéma est une construction ad hoc, il n'a pas de réalité, et par conséquent, ce n'est pas la peine non plus de chercher une théorie causale de l'évolution. Alors j'en viens à la pièce centrale de ce sujet qu'on m'a demandé de traiter, théorie de l'évolution et créationnisme. Et j'attire votre attention sur quelque chose qui est en général mal compris, et qui est mal compris même par les spécialistes qui écrivent dessus, et dont, qui, à mon avis, utilisent de manière vague et quelquefois incohérente le mot créationnisme. En fait, quand on parle aujourd'hui du créationnisme, parce qu'on est arrivé à un moment où c'est devenu très compliqué, beaucoup plus compliqué que ça n'était, par exemple, il y a 100 ans, il faut dire que ce mot a trois sens et que ces trois sens sont extrêmement différents, bien qu'ils se profilent tous sur un arrière-fond religieux. Le premier sens du mot créationnisme est le sens historique du mot. Ce mot n'a pas toujours existé. Ce mot a été forgé délibérément dans une société particulière aux États-Unis entre 1900 et 1910. On se dispute un peu pour savoir quelle est vraiment la première occurrence, parce que chaque fois que quelqu'un en trouve une, il y en a un autre qui trouve quelques mois plus tôt. Mais enfin, actuellement, on fait remonter les choses à 1901. Et j'appellerai ce créationnisme-là le créationnisme sensu stricto. Je pense qu'on devrait réserver le mot de créationnisme à cela et utiliser d'autres mots qui existent d'ailleurs pour les autres formes alléguées de créationnisme. Notons aussi que ce créationnisme-là, le créationnisme historique, est le seul qui se revendique comme tel. C'est-à-dire que ce sont des gens, ça n'a pas été un mot d'injure utilisé pour qualifier d'autres gens, ce sont des gens qui se sont qualifiés comme créationnistes, qui l'ont revendiqué et qui ont été expliqués ce qu'il voulait dire par cela. Ce mot a donc été créé au début du XXe siècle dans le contexte d'un mouvement culturel et religieux qui s'appelait le fondamentalisme, en référence à un ensemble de livres très largement diffusés, très populaires, qui s'appelait The Fundamentals, les fondamentaux, livres qui ont été publiés entre 1910 et 1915, mais le terme existait auparavant, et dans lesquels l'idée centrale, c'est que la civilisation occidentale, et en particulier chrétienne, était sur le déclin. Il fallait revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire au culte, à la lecture littérale de la Bible, et à d'autres choses de même genre. L'idée clé, alors, était de contester, au fond, l'évolution comme une doctrine prétendument scientifique, mais qui était dangereuse, pour, justement, le christianisme. Ce qui est assez curieux, d'ailleurs, c'est que, dans les premières années, je vais revenir dans un instant, le créationnisme n'était qu'une pièce un peu marginale dans ce mouvement des fondamentaux. L'accent était plutôt mis sur la pratique religieuse, la lecture de la Bible, la pratique d'un certain nombre de vertus chrétiennes, etc., etc. Mais ce que je voudrais noter ici, c'est que dans ce premier sens de créationnisme, ce qui est contesté, c'est la première partie de la théorie de Darwin. C'est-à-dire, au fond, il n'est pas vrai que l'histoire de la vie se soit déroulée sur des centaines de millions ou des milliards d'années. Elle s'est déroulée dans l'espace que permet de définir l'Ancien Testament, 6000 ans. Les espèces n'ont pas changé parce qu'elles sont toujours telles qu'elles ont été créées par Dieu dans les 6 premiers jours de la création. Et par conséquent, il n'y a pas lieu de chercher une théorie causale de l'évolution. Alors ça, c'est le premier créationnisme. Donc, lecture littérale de la Bible. Il y a un second sens du mot qui est souvent utilisé aujourd'hui, mais de manière rétrospective par rapport au XIXe siècle. Alors, en fait, c'est une projection, une rétro, si j'ose dire, projection, C'est ce qu'on appelait au XIXe siècle la théorie des créations séparées ou créations spéciales. Et c'est une théorie qui s'est développée pendant un siècle à peu près, du début du XIXe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et c'est la théorie contre laquelle s'est battu Darwin pour faire valoir une autre vision de l'histoire de la vie. Cette théorie des créations séparées a été endossée par de très nombreux savants au XIXe siècle, et en particulier par certains des fondateurs de la paléontologie, et parmi les plus grands, Cuvier, Acide d'Orbigny, Agassiz, donc certains des très grands noms de la paléontologie. Quelle était l'idée principale? C'est que, d'abord, les espèces se sont succédées, donc remplacées, sur d'immenses temps géologiques. Donc pour ces créationnistes, entre guillemets, et encore une fois j'insiste sur le fait qu'on ne devrait pas employer ce mot-là pour ces gens-là, ils admettent que l'histoire de la vie s'est déroulée sur des temps géologiques immenses, qui ne sont pas les temps décrits à la lettre par la Bible. Donc ils sont chrétiens, mais ils disent, mais bon, bah, le récit de la Genèse, il faut l'interpréter, c'est un récit qui a circulé parmi des peuples assez peu éduqués, qui étaient sensibles à une, scientifiquement, disons, très sensibles aux symboles. Il nous faut donc interpréter et dire, par exemple, bah, dans la Bible, il y a deux récits de la création, il y en a un de 6 jours et puis il y en a un autre après, ou encore les 6 jours, nous pouvons les interpréter comme des périodes géologiques, peu importe. Il y a une histoire de la vie qui s'étend sur d'immenses périodes. Mais alors, ce qu'ils disent, c'est que les espèces se sont succédées, elles n'ont pas dérivé physiquement les unes des autres. Et chacune a fait l'objet d'une création spéciale. Ces savants disent souvent, d'ailleurs, création spéciale, vous pouvez l'entendre soit en un sens théologique, c'est-à-dire un acte spécial de création de Dieu, soit encore en un sens neutre, c'est-à-dire un mécanisme physique inconnu, mais qui fait que subitement surgit une espèce qui vient en remplir une autre, mais nous ne connaissons pas le mécanisme. Alors vous voyez que ce créationnalisme-là est très différent du précédent. Et puis le mot est aujourd'hui appliqué, et ça c'est un peu plus paradoxal, un troisième courant de pensée, beaucoup plus récent, le courant dit du dessein intelligent, dessein avec un E, Intelligent Design, dont on voit les prémices dans les années, fin des années 80, début des années 90, et qui est en fait fondée sur une vieille idée. Alors, le dessin intelligent, c'est aussi une affaire de, disons, hautement abstraite, de scientifique, c'est pas une affaire très populaire. C'est des scientifiques qui sont souvent des biochimistes, des gens qui font de la biologie mathématique, qui s'intéressent aussi à l'origine de la vie, et qui disent les êtres vivants sont des dispositifs tellement complexes que la probabilité est extrêmement faible qu'ils aient été engendrés au hasard. Alors, je donne la chose de manière critique, non critique, parce que ça pose beaucoup de problèmes de s'exprimer ainsi. Mais je prends l'idée telle qu'elle se présente. Donc ces dispositifs sont si extraordinairement coordonnés et compliqués qu'ils ne peuvent pas être dus au hasard, et qu'il faut postuler une cause intelligente à l'œuvre dans leur genèse. Ces théoriciens de l'intelligent design n'utilisent quasiment jamais le mot Dieu dans cette histoire, ils disent une cause intelligente, et en tout cas, ils ne contestent pas l'idée d'une dérivation physique des espèces. Oui, bien sûr, les espèces sont dérivées les unes des autres, elles se sont modifiées, il y a eu de la sélection naturelle, il y a eu de la dérive génétique et bien d'autres processus, mais ce n'est pas notre affaire. Nous estimons qu'il y a un certain nombre de points dans l'histoire évolutive qui ne peuvent pas s'expliquer ainsi et qui exigent, parce qu'ils sont extrêmement peu probables, de recourir à une cause intelligente. Alors, ces savants reprennent d'ailleurs un vieux mode de pensée qui était très connu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et c'est ce qu'on appelait « the argument from design », l'argument tiré du dessin. Les êtres vivants présentent un design, s'ils sont design, ils ont été designed, Donc s'ils sont organisés, il a fallu qu'il y ait un architecte pour les faire comme ils sont. Alors, on utilise aujourd'hui souvent le mot de créationnisme pour cette vision qui est aussi religieusement quand même inspirée de l'évolution, mais qui est très différente des autres. Notez au passage que les théoriciens de l'intelligent design détestent qu'on les mette avec les créationnistes. C'est un petit peu comme si vous mettez un grand savant, Place Clichy, le 14 juillet, il ne se reconnaît pas dans cette foule-là. À moins que ce jour-là, il ait envie d'aller flirter ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, bon, c'est l'idée. C'est-à-dire que c'est une hypothèse savante. Le créationnisme consistant à dire, bon, c'est pour détendre l'atmosphère. Le créationnisme consistant à dire, les espèces n'ont pas changé, le monde l'assimilant, ceux-là disent, ce n'est pas notre hypothèse. Hein? Nous parlons d'autre chose, nous parlons d'explication causale de l'évolution. Alors, je vais vous dire un mot maintenant des origines et du développement du mouvement créationniste. Ce sera une présentation assez schématique, mais le créationnisme est maintenant une affaire qui a plus de 100 ans. Il a donc une histoire. Et cette histoire, on est en mesure de la raconter et de la périodiser. Je vous ai déjà indiqué l'origine du terme et les tout débuts. Donc, dans les années 1900, aux USA. Donc, le mouvement fondamentaliste. Notons que dans la période antérieure à la guerre de 14-18, le créationnisme est une pièce du mouvement fondamentaliste, mais pas très très importante. Par exemple, un auteur qui écrit un livre assez connu qui s'appelle « The Passing of Evolution », George Wright, c'est-à-dire au fond le déclin de l'évolution. Mais quand on lit ce livre, en fait, il est pas très dur. Il admet que malgré tout, il y a une dérivation des espèces, mais que il faut se méfier de cette théorie car elle présente potentiellement un danger pour le fondamentalisme. Et puis d'autres auteurs à la même époque sont un peu plus audacieux et disent que la théorie de l'évolution est purement et simplement incompatible avec le récit littéral de la Genèse. Donc ce qui est assez curieux, vous voyez, avant la guerre de 14, c'est le créationnisme est finalement quelque chose d'assez marginal dans le mouvement fondamentaliste. Puis de 1918 à 1930, pour décrire cette période, on utilise souvent l'expression qui n'est pas du tout neutre de croisade anti-évolutionniste, mais parce qu'elle a été utilisée par ceux qui l'ont menée. Nous sommes immédiatement après la Première Guerre mondiale. Et la personne qui va donner une popularité et un caractère politique au créationnisme est un individu extrêmement important dans l'histoire américaine. C'est William Bryan, qui n'était pas n'importe qui. Bryan. Je vais pas l'appeler brillant quand même. Hein. Bon. Alors, donc Bryan a été 3 fois candidat à l'élection présidentielle américaine. Il a été secrétaire d'État du président Wilson. C'était donc, à son époque, l'un des plus en vue des personnages, enfin des hommes politiques américains. Bon, celui qui perd toujours aux élections, bien sûr, mais enfin, susceptible de gagner le coup suivant. Après la Seconde Guerre mondiale, donc cet homme qui s'était beaucoup occupé de la politique étrangère pendant la période de la guerre, a commencé à s'intéresser à l'évolution et à se lancer dans ce qu'il a appelé lui-même une croisade anti-évolutionniste. Alors ce qu'il pensait, il l'a développé dans des livres et il l'a répété dans des conférences qu'il a commencé à faire lorsqu'il a sa carrière politique a été sur le déclin, des conférences, mais qu'il a prononcées dans quasiment toutes les villes et tous les États d'Amérique. Il a commencé à dire, bon, la théorie darwinienne n'est pas une théorie scientifique. Pourquoi ? Parce qu'elle ne nous parle pas de faits, en particulier pour le changement d'espèce, mais qu'elle est une pure hypothèse. Deuxièmement, c'est une théorie qui est dangereuse pour le christianisme. Elle menace l'assise populaire de la foi. Troisièmement, elle exprime un pouvoir illégitime d'une minorité, les quelques milliers de savants, en désaccord avec le peuple américain qui, lui, croit massivement dans la vérité littérale du récit de la Genèse. Et ce qu'il propose en conclusion, et là on voit que c'est l'œuvre d'un homme politique, c'est d'interdire l'enseignement de l'évolution dans les écoles publiques. Notez bien qu'en 1920, ça ne se faisait pas beaucoup d'enseigner l'évolution dans les écoles publiques. Simplement, les professeurs des écoles, ils faisaient des allusions plus ou moins orientées pour, contre, en fonction de leurs opinions. La campagne de Bryan va aboutir en 1925 à un procès retentissant dans une petite ville du Tennessee, à Dayton. C'est un épisode extrêmement connu. Le procès d'un professeur des écoles secondaires qui était tout jeune, c'était sa première année d'enseignement, qui s'appelait Scopes. Au cours de ce procès, où il y aura plus de journalistes que de résidents dans la ville, il y avait 3000 personnes au procès, l'avocat de l'accusation sera Bryan en personne, et un autre homme politique connu pour être libre-penseur, Darrow, viendra défendre le jeune professeur. Il sera finalement condamné à $100. La peine sera cassée dans une cour d'appel et tout cela remontera finalement à l'État fédéral. Une chose qui a été comprise seulement récemment, et c'est vous dire la complexité de la chose, c'est que lorsque, en fait, Bryan et un certain nombre de ses amis étaient à l'affût d'un professeur du secondaire qui parlerait de l'évolution dans ses cours. Et puis ils en ont trouvé un qui a parlé une heure, comme ça, les élèves avaient pris des notes, donc on avait les preuves. Ce qu'on a découvert récemment et qui est extrêmement troublant, c'est qu'en fait, l'affaire avait été organisée par des radicaux américains, autrement dit des libres penseurs, ouvertement darwiniens, et qui ont cherché à piéger justement les fondamentalistes. Donc on a retrouvé maintenant un certain nombre de documents, des témoignages oraux et aussi des archives qui montrent que deux politiciens de la ville de Dayton se sont dit un jour, et si on convainquait un jeune enseignant, bien sympathique, en l'occurrence il s'agissait de Scopes, première année d'enseignement, de parler une heure pendant ses cours de l'évolution, comme ça on espère que les autres mordront à l'hameçon, il y aura un procès, ce sera retentissant, et on espère ainsi en finir avec la campagne anti-évolutionniste de Bryan. Donc ça, c'est la deuxième période. Au terme de cette période, après ce procès, ce qui va se produire, c'est que l'enseignement de l'évolution va disparaître pour environ 30 ans, presque totalement, des écoles secondaires américaines. Il y aura d'autres procès, d'autres affaires du même genre, et bon, les professeurs se convaincront que finalement ça vaut pas le coup et renonceront à enseigner l'évolution. Troisième période, 1930-1960, on observe un repli des créationnistes. Pas parce qu'ils auraient été attaqués de l'extérieur, ils avaient gagné, si j'ose dire, sur le plan où ils voulaient, l'enseignement de l'évolution dans les écoles. mais simplement parce qu'ils ont commencé à se rendre compte que les écrits de leurs propagandistes étaient extrêmement faibles d'un point de vue scientifique, et ils ont cherché à recruter chez des scientifiques. Donc c'est une période dans laquelle un certain nombre de géologues, biochimistes, rarement des biologistes naturalistes, se sont laissés convaincre, et donc on a vu apparaître des créationnistes qui étaient des docteurs en géologie, docteurs en chimie, docteurs dans un certain nombre de domaines scientifiques. Autrement dit, on voit les prémices de ce qu'on appellera, à partir des années 60, le créationnisme scientifique. Période 1960-1970, où justement l'expression apparaît. Alors c'est la période où, si j'ose dire, les créationnistes deviennent effectivement plus documentés, plus scientifiques, fondent des journaux, des institutions, et cherchent à donc conquérir du terrain scientifique en lançant des programmes de recherche. Il y en a un qui est fameux, qui est la recherche de l'Arche de Noé. Il y a eu des programmes plus subtils, comme ceux consistant à rendre compte de grands phénomènes géologiques sur un mode de transformation rapide. Il y a toujours aujourd'hui, par exemple, des gens qui travaillent sur des scénarios éventuels d'une ouverture de l'Atlantique Nord en 400 ans. Notez bien qu'au passage, ça contredirait toutes les lois de la physique. C'est incompatible avec toutes les lois de la physique connues, mais il y a un travail qu'on peut dire ici d'allure scientifique, au moins dans la méthodologie. Après 1970, on voit revenir le créationnisme politique, autrement dit, une avalanche de procès ou d'actions en justice ou dans les parlements des États, pour de nouveau, alors non plus exactement interdire l'évolution, l'enseignement de l'évolution dans les lycées, mais l'enseigner à parité avec ce que l'on commence à appeler la science de la création. Cette période est aussi celle où les créationnistes développent un argumentaire épistémologique en disant « Regardez les très grands philosophes des sciences, Karl Popper, Thomas Kuhn et quelques autres, ce qu'ils nous apprennent, c'est que la science, ce n'est pas la certitude, que la science, c'est la connaissance réfutable, que le sort des théories scientifiques n'est pas simplement décidé par des facteurs rationnels, etc., etc., etc. » Et dans cette période récente, au cours des 20 ou 30 dernières années, cet aspect de la controverse va prendre un très grand sens, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique? On nous objecte que notre créationnisme scientifique, c'est pas scientifique. Ben, nous ne sommes pas si persuadés que la théorie de l'évolution, ce soit si scientifique que ça. Bon. Depuis 1990, le paysage s'est beaucoup complexifié. Curieusement, aux USA même, et en dépit des apparences, on observe de nouveau, après, au fond, les échecs dans tous les procès des années 70 et 80, un repli politique et développement d'institutions, donc des universités, des journaux, des périodiques, des écoles, etc. Développement dans le même temps de ce qu'on pourrait appeler un créationnisme éclairé, hautement abstrait. Bon, le dessin intelligent, on peut considérer que ça en est une branche. Et puis aussi, engagement, alors fait nouveau, comme dans les années 1920, engagement massif d'hommes politiques, deux présidents de la République américaine, Ronald Reagan et Bush. Et puis enfin, chose totalement nouvelle, diffusion aussi importante des idées créationnistes à l'échelle planétaire. D'abord dans quasiment tous les pays d'Europe, et puis aussi dans des pays islamiques. Voilà donc un tableau historique qui montre que le créationnisme n'est pas une entité figée, qu'il est aussi, lui, une construction historique, et que par conséquent, il a changé. Je conclurai plus en philosophe, en essayant de pointer ce que sont, à mon avis, les enjeux du créationnisme. Certains enjeux sont sociaux, d'autres sont des enjeux très, très, très intellectuels, d'autres sont scientifiques encore, on va essayer de les dissocier. Alors je crois qu'il faut distinguer clairement les deux des modalités du créationnisme dont j'ai parlé, le créationnisme sensu stricto, c'est-à-dire interprétation littérale du livre de la Genèse, et puis d'autre part, dessin intelligent. Quels sont les grands enjeux? Le premier, le principal, c'est la lecture littérale de la Bible et en particulier du récit de la Genèse. Alors, je crois que c'est important à souligner parce que ça nous amène à comprendre que l'enjeu, à mon avis, c'est l'enjeu principal, mais on n'est pas obligé de partager ce point de vue. Enfin, l'un des principaux enjeux du créationnisme, c'est un débat interne aux religions d'abord. Ceci nous permet de comprendre d'ailleurs pourquoi ça a été un phénomène presque exclusivement américain pendant un siècle. On peut se souvenir ici que parmi les premiers colons qui sont partis d'Angleterre et d'Irlande vers les États-Unis il y a 4 siècles, il y en a qui ont été, un bon nombre qui ont été littéralement expulsés parce qu'ils étaient persécutés en Angleterre pour plaider en faveur de l'interprétation littérale de la Bible. Et comme m'ont souvent dit des interlocuteurs américains, vous savez, les églises protestantes, c'est complexe. Il y a une hiérarchie sociale des églises protestantes. Et puis les catholiques ont aussi leur place là-dedans. Donc quand vous allez dans des grandes universités protestantes ou catholiques, on vous dit, bon, ils ont été chassés d'Angleterre au XVIe siècle, et 4 siècles après, on est toujours avec le même problème. Ce n'est pas par hasard que ça se passe aux États-Unis. Je vous rapporte le propos, cru. Donc premier enjeu, un enjeu donc, vous voyez, qui est, se situe à l'intérieur des religions, et on pourrait dire d'ailleurs que c'est un enjeu qui est redoublé aujourd'hui du fait de la généralisation du créationnisme. C'est un très grand enjeu que de savoir, au fond, si on doit interpréter de manière littérale ou au contraire exégétique les grands textes religieux. C'est valable pour les grands textes fondateurs du christianisme, c'est valable aussi pour les textes fondateurs de la religion juive et de la religion musulmane. Deuxième enjeu, c'est l'identification qui a été faite très tôt, dès que Darwin a publié L'origine des espèces, entre darwinisme et athéisme. Alors, ceci s'est produit chez deux genres d'auteurs. C'est assez marginal, en fait. Mais premièrement, vous avez un certain nombre de théologiens, protestants mais aussi catholiques, qui, à la fin du XIXe siècle, ont dit « Le darwinisme, c'est une forme moderne, majeure, de l'athéisme. » Bon. Pourquoi ? Quel est l'argument central ? Parce que c'est une manière de nier la capacité de Dieu à faire des miracles. Dieu a créé un monde en le pourvoyant de lois de la nature, certes, mais par sa toute-puissance, il est capable d'intervenir dans le monde, de modifier en quelque sorte de temps en temps la règle du jeu, et ça s'appelle faire des miracles. Alors pour ces théologiens-là, c'était quelque chose d'inacceptable. Et puis, dans le même temps, les darwiniens les plus durs, les plus idéologiques, c'était déjà le cas en 1860 et c'est toujours le cas aujourd'hui, disent de la même manière, mais oui, c'est bien ça, le darwinisme est l'argument majeur des cultures modernes contre la religion, ou du moins contre les religions qui enveloppent des théories de la création. Alors là, on a évidemment un cas clair de conflit. Mais c'est un conflit entre certains darwiniens et certains théologiens. Et bien, enfin, il y a une chose qui est aussi extrêmement importante. C'est pour moi le second grand enjeu. C'est que dans ce débat contemporain, ce qui est en jeu, c'est le rapport entre science et société. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique? Qui est-ce qui en décide? Comment ça se diffuse? Comment la science, si elle est une connaissance rationnelle et critique, trouve-t-elle sa légitimité dans la société en général? C'est un très très grand problème et je crois que la question du créationnisme nous invite tous à réfléchir sur cette question. La science est devenue quelque chose de trop important dans les sociétés modernes à tous égards pour qu'elle se développe comme dans une sphère autonome. C'est l'affaire en réalité de tous et ça n'est pas facile, ça c'est certain. Et puis, en ce qui concerne le dessin intelligent, le paysage est un petit peu différent. Je vous ai dit que c'est une affaire hautement abstraite. Là, il s'agit plutôt de scientifiques qui sont tous ouvertement, qui clament tous ouvertement leur appartenance religieuse et qui disent, dans la théorie de l'évolution par sélection naturelle, ce qui ne va pas, c'est l'explication, c'est l'intervention du hasard. Alors vous remarquez que ce qui est en question là, c'est pas l'hypothèse de dérivation des espèces les unes à partir des autres. C'est la théorie de la sélection naturelle. C'est cela qui est visé. Et ces savants disent aussi, il y a un dogmatisme de la science contemporaine qui consiste à séparer science et métaphysique. C'est un dogmatisme qui doit être combattu, en particulier dans l'explication. Conclusion générale, la première, elle est évidente, ça me ramène au point de départ, c'est que l'histoire du créationnisme illustre les trois modalités du rapport science-religion dont j'ai parlé tout à l'heure, le conflit, la séparation et l'intégration, c'est-à-dire de temps en temps ça s'oppose, la plupart du temps ça fonctionne séparément et c'est valable aussi pour l'évolution, et puis quelquefois ça collabore de manière interactive, comme en particulier chez des penseurs comme Breuil ou Teilhard de Chardin. Puis deuxième conclusion, plus sociologique, je ne me ferai peut-être pas que des amis en le disant, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est la dissymétrie sociologique de ce débat. Qu'il s'agisse de créationnisme au sens originel, donc refus de l'évolution parce qu'elle contredit la lettre du récit de la Genèse dans l'Ancien Testament, ou qu'il s'agisse du créationnisme au sens de dessin intelligent, hein, eh bien, dans toutes ces formes de créationnisme, le créationnisme est toujours revendiqué par des personnalités qui expriment explicitement leur appartenance religieuse. Lorsque vous vous tournez du côté de l'évolution, et on m'a demandé de parler de théorie de l'évolution et créationnisme, c'est quelque chose que l'on n'observe pas. En règle générale, les biologistes de l'évolution ne parlent pas de ce problème, le mettent entre parenthèses et le considèrent comme hors champ scientifique. Je vous remercie pour votre attention.